VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Le tueur qui a commis le massacre au nom du groupe État islamique dans un bar gay d'Orlando en Floride, où il semblait avoir ses habitudes, était un jeune homme en colère, dérangé et instable, qui s'est radicalisé, a déclaré hier soir le président américain Barack Obama. Le point avec Nathalie Barge.
Lors d'une allocution, le président américain a dressé le portrait d'Omar Mateen, qui a attaqué dimanche une boîte de nuit à Orlando, faisant 49 morts et 53 blessés. Parmi les 22 blessés toujours à l'hôpital, 6 sont dans un état critique. Barack Obama s'en est aussi pris au candidat républicain Donald Trump pour sa rhétorique sur les musulmans. Monsieur Obama ira demain jeudi à Orlando pour rendre hommage aux victimes et apporter son soutien à la communauté homosexuelle. Omar Mateen avait déjà été placé sous surveillance par le FBI, mais n'avait rien révélé de suspect. Son épouse Noor Mateen est interrogée par la police fédérale et coopère avec les autorités. Certains médias évoquent l'homosexualité cachée du tueur, affirmant qu'il fréquentait le Pulse et utilisait des applications pour des rencontres gays. Ce carnage vient relancer le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Une pétition contre la vente de fusils d'assaut semi-automatiques à des civils a recueilli plus de 400 000 signatures.
Toujours concernant la tragédie d'Orlando, l'ex-secrétaire d'État américain Hillary Clinton, candidate démocrate à la Maison-Blanche, a fustigé le rôle de l'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït dans le financement mondial de l'idéologie extrémiste. Madame Clinton a tenu ses propos au lendemain du sanglant attentat d'Orlando. Pourtant, les trois pays mentionnés font partie des alliés des États-Unis. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint l'ex-secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, l'ambassadeur Herman Cohen.
J'ai été pas surpris parce que déjà, nous avons commencé à voir dans les journaux comme le New York Times des articles qui parlent du financement du terrorisme. Mais il ne faut pas croire que ce sont ces gouvernements qui financent le terrorisme. Mais il y a des hommes d'affaires, des gens riches dans ces trois pays-là qui font ça. Ils financent le terrorisme, ils donnent du cash. Et Mme Clinton parle surtout de ça. Ils regardent, les gens continuent à faire ça et les gouvernements ne font rien. Donc, c'est une mauvaise situation.
Elle a dit ces trois pays et d'autres devraient cesser de soutenir les écoles et les mosquées radicales qui ont conduit trop de jeunes sur le chemin de l'extrémisme dans le monde.
Oui, elle a raison de dire ça. Moi, j'ai vu ça en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé certaines années dans ma carrière comme diplomate. Les missionnaires d'Arabie Saoudite ou de Qatar, ils viennent là-bas, ce sont des pays musulmans, et ils disent aux imams, votre islam n'est pas bon, il faut que vous soyez comme nous. Et ils donnent de l'argent pour la construction des mosquées, et ils envoient des imams, et c'est comme ça que la radicalisation commence. En Afrique de l'Ouest, les musulmans sont très tolérants. Ils célèbrent le Noël même. Mais quand ces gens viennent de l'Arabie Saoudite, ils radicalisent les imams, ils donnent l'argent. Donc, c'est très dangereux, ça.
Est-ce que vous pensez, une fois la Maison-Blanche, qu'elle aura, disons, les moyens de faire appliquer cette position?
J'ai vu que les journalistes ont posé des questions au président Obama. Il a dit que c'est compliqué. C'est-à-dire que ces pays-là sont des alliés au Moyen-Orient. Ils luttent contre les rebelles au Yémen. Ils luttent contre le président de la Syrie. Donc, ils sont nos alliés. Donc, c'est difficile de critiquer nos alliés. Ils donnent de l'argent pour aider certains groupes que nous aidons. Ils achètent nos avions. Ils payent beaucoup d'argent. C'est très difficile. Je crois que ce sera au prochain président de trancher là-dedans. Et c'est possible que ce sera Hillary Clinton.
Quelle est l'approche qu'elle devra adopter?
Je crois qu'il faut commencer à être dur avec ces gens-là. Ces pays existent sous la protection des États-Unis. Ils sont en danger. C'est une région dangereuse parce qu'il y a l'Iran qui est un pays chiite, qui n'aime pas les soumis. Donc, il faut qu'on commence à être dur avec ces gouvernements.
L'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen, joint à Washington par Eric Manirakiza. La lutte contre le groupe État islamique en Libye maintenant, les forces pro-gouvernementales libyennes ont annoncé aujourd'hui avoir repoussé une nouvelle contre-offensive du groupe État islamique dans son fief à Sirte, où les djihadistes sont quasiment encerclés. L'EI a tenté sans succès d'éliminer des positions contrôlées par les milices du gouvernement d'Union nationale libyenne dans le secteur ouest de la ville, qui est situé à 450 km à l'est de Tripoli et dont une grande partie a déjà été reconquise depuis le 9 juin.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Guinée-Bissau, bref, décrispation de la situation politique. Les députés bissau-guinéens se sont réunis mardi après quasiment deux mois d'interruption en raison d'une crise entre le président José Mario Vaz et le chef de son propre parti, Domingo Simões Pereira. Les détails avec Idriss Fall.
C'était la première séance de l'Assemblée depuis le 19 avril, mais aussi la dernière session parlementaire. Elle n'a duré que 10 minutes et il n'y a pas eu de débat. Le vice-président de l'Assemblée, Inácio Correia, du PAIGC, le premier parti politique, a déclaré que le Parlement est en train de se transformer en un instrument manipulé par une force obscure. Les députés du PRS, parti d'opposition, et les 15 dissidents du PAIGC ont rétorqué. C'est de la dictature. Le président José Mario Vaz compte sur l'opposition et les dissidents pour avoir une majorité alternative soutenant le gouvernement du tout nouveau Premier ministre Bassirou Dia. Depuis la destitution par le président Vaz en août 2015 de son Premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC, dont ils sont tous les deux membres, la Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques qui ont conduit à une paralysie totale de l'Assemblée nationale. Et aucune date n'est annoncée pour la prochaine session parlementaire.
Afrique centrale maintenant, au Tchad, deux fils de dignitaires qui ont violé une jeune lycéenne en février dernier à N'Djamena se sont évadés de la prison où ils avaient été incarcérés en attendant leur jugement. De nombreuses manifestations avaient été organisées dans la capitale tchadienne après ce forfait et le procureur général de la cour d'appel de N'Djamena avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire, de même que l'arrestation de cinq suspects, dont les deux qui se seraient évadés. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est placé en garde à vue. Assigné en résidence depuis plusieurs semaines, M. Mokoko, candidat à la dernière présidentielle, conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Dialogue politique en RDC, le facilitateur Item Kodjo annonce la mise en place d'un groupe de soutien à la médiation qui sera composé des organisations internationales et aussi de l'ambassadeur de l'Union africaine. Item Kodjo a par ailleurs annoncé qu'il sera à Bruxelles pour y rencontrer des opposants qui ont pris part au récent conclave de l'opposition, notamment le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. On écoute Item Kodjo au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les gens estiment que le facilitateur était trop patient, mais je crois d'abord que la qualité première d'un facilitateur, c'est la patience. Comme le grand poète antillais M. Césaire l'a dit, j'ai une patience à boire toutes les eaux du Congo. Donc, il faudra que tout le monde mette de l'eau dans son vin pour qu'on aille de l'avant. Je vais faire un déplacement à Bruxelles pour une fois de plus m'assurer que tout est mis en œuvre pour que nous démarrions les travaux du comité préparatoire. On n'a pas fini de parler de la même chose indéfiniment. Alors, il faut toujours remettre sur le métier l'ouvrage qu'on a commencé si cet ouvrage n'est pas achevé. Donc, il n'y a pas de honte à essayer une fois de plus. Nous verrons bien ce qu'il y a lieu de faire après. Mais je ne souhaite pas que les positions se figent et se cristallisent autour de pôles irréductibles. Mais je souhaite que plus de mou soit apporté dans les différentes positions que l'on exprime ici et là.
Edem Kodjo, facilitateur dans la crise politique en RDC. En Ouganda, le procès pour trahison de l'opposant Kizza Besigye devra se tenir dans un tribunal et non dans une prison. Ainsi en a décidé aujourd'hui la justice ougandaise. M. Besigye est apparu devant le tribunal avant de retourner à la prison de Lusira. Et puis les États-Unis expriment de sérieuses inquiétudes concernant la situation entre l'Éthiopie et son voisin, l'Érythrée, qui se sont livrés à de violents combats à leurs frontières communes le week-end dernier. Nous appelons les deux parties à la retenue et à amorcer un dialogue politique, a déclaré John Kirby, le porte-parole de la diplomatie américaine dans un communiqué hier. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.